beaucoup plus avancée entre l'Union européenne et le Canada, qui s'appelle le CETA selon l'acronyme anglais, et l'acronyme français c'est AECG, Accord économique commercial global. Et l'AECG est déjà signé. Et on est là, on a reçu lundi dernier la version définitive. Et consolidée, comme on dit, pour utiliser un terme juridique. Et si je vous en parle, c'est parce que cet accord, AECG ou le CETA, doit véritablement se comprendre comme étant le poisson pilote du TAFTA. C'est-à-dire que je vais évidemment beaucoup vous parler de l'accord Union européenne-États-Unis, mais celui-là, il n'est pas encore signé, il est en négociation, on a un mandat de négociation, on a un certain nombre de documents qui nous montrent dans quel sens vont les négociations, mais le CETA, lui, est signé, le texte est définitif, et il porte les dispositifs qui sont actuellement en négociation dans le TAFTA. Et donc on a avec le CETA, grandeur nature, un texte, ce n'est pas des extrapolations, ce n'est pas des déductions, c'est un texte sur lequel on peut s'appuyer pour savoir ce qui est dans les tuyaux avec l'Union européenne, États-Unis. Et donc je vais constamment faire l'aller-retour, c'est-à-dire vous parler de l'un et de l'autre accord, puisque désormais, dans notre compréhension des choses, il faudra associer les deux, et surtout dans nos engagements militants, dans ce que nous allons faire pour lutter contre ces accords de libre-échange. Alors, déjà, la première chose à dire, c'est que les accords dont il est question sont des accords de libre-échange. C'est important de faire cette précision sur le plan sémantique. Parce que souvent, si vous écoutez la Commission, si vous écoutez le gouvernement français, mais les autres aussi, on nous dit qu'il s'agit d'accords de commerce. D'accords de commerce qui ont vocation à fluidifier les relations entre l'Union européenne et tel ou tel partenaire, à faire en sorte que les produits ne subissent pas deux fois les mêmes tests. Et on vous donne l'exemple des huîtres qui sont testées de manière différente en France ou aux États-Unis, par exemple. Et on vous parle aussi des prises d'aspirateur. Là, j'en vois une en vous disant, bon, ben voilà, on va essayer d'harmoniser les différents types de prises, etc. Il y a ça, évidemment, dans les accords de commerce, mais ça, c'est anecdotique. C'est quelque chose qui n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important désormais, et pourquoi on doit parler d'accords de libre-échange, c'est que on a des accords qui ont comme vocation de baisser les barrières derrière les barrières. C'est-à-dire baisser les barrières non tarifaires derrière les barrières tarifaires. Alors, une petite explication. Les barrières tarifaires, c'est les droits de douane. Les droits de douane aujourd'hui dans le commerce international sont faibles. Ils sont faibles parce que il y a eu un accord de commerce, pour le coup, qui s'appelle le GATT, qui existe toujours, mais qui entre 1947 et 1995 a rempli le mandat qui était le sien, qui consistait à baisser partout dans le monde les droits de douane. Et aujourd'hui, les droits de douane de l'Union européenne avec les États-Unis ou avec le Canada, par exemple, mais avec d'autres aussi, sont plutôt faibles, autour de 2%, en réalité moins de 2%, puisqu'il y a globalement de très faibles droits de douane avec quelques pics tarifaires qui amènent à peu près à une moyenne de 2%. Donc la question des droits de douane, les barrières tarifaires, est réglée. Les barrières tarifaires sont aujourd'hui, sauf quelques pics tarifaires, quasiment inexistantes. Mais demeure, pour les libéraux qui nous gouvernent, en tous les cas pour l'Union européenne, pour les États-Unis, pour Singapour, pour l'Australie, etc., etc., demeure ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, c'est-à-dire les décisions publiques prises par les États ou par les organisations infra-étatiques qui ont une conséquence sur le commerce et qui peuvent être qualifiées de mesures distorsives au commerce, c'est-à-dire des mesures publiques qui entraînent que le principe sacro-saint de la concurrence libre ne soit plus exactement respecté. C'est-à-dire des mesures distorsives comme par exemple la subvention. La subvention est une mesure distorsive au commerce, par définition, et celle-là, elle doit être supprimée. En tous les cas, le fait que les accords de commerce portent l'interdiction de mesures distorsives au commerce date de 1995, création de l'Organisation mondiale du commerce. Et si je vous en parle, ce n'est pas seulement pour le plaisir de vous faire un petit cours d'histoire sur ce qui s'est passé ces dernières années, c'est toujours intéressant, mais ce n'est pas seulement pour ça, c'est parce que désormais, c'est la base. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a à l'OMC, tout ce qui se trouve dans les accords de l'OMC, se trouve aujourd'hui dans les accords dont nous parlons ce soir, c'est-à-dire entre l'Union européenne et les États-Unis, entre l'Union européenne et le Canada. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les accords de l'OMC ? Interdiction des mesures distorsives au commerce, je viens de le dire, par exemple la subvention. La subvention, par définition, est distorsive au commerce. Par définition. Puisque, quand une subvention est donnée, une puissance publique discrimine une entreprise par rapport à une autre. Elle discrimine un secteur d'activité par rapport à une autre. Une manière de faire économique par rapport à une autre. Donc celle-là, la subvention, en principe, doit sauter. Elle ne le fait pas, et elle n'a pas vocation à sauter, d'une manière aussi brutale qui consisterait à dire dans un texte les subventions sont supprimées. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ça passe par la mise en place d'un principe qui s'appelle celui du traitement national. Le traitement national... Il y a aussi un autre principe qui est un petit peu différent, qui s'appelle le principe du traitement par la nation la plus favorisée, de la nation la plus favorisée. Le traitement national est quelque chose de très simple dans son expression. Toutes les entreprises doivent être traitées par la puissance publique de la même manière, quelle que soit leur nationalité. Quand on dit ça, on a l'impression qu'on ne dit pas grand-chose, et que ça ne va pas très loin. Mais si. Parce que ça veut dire que si un secteur est ouvert à la concurrence, comme à la libéralisation, puisque c'est l'objectif désormais de tous ces accords, si un secteur est ouvert à la concurrence, prenons par exemple l'éducation, avec le traitement national, ça voudra dire qu'une entreprise d'éducation privée pourra, par exemple, des États-Unis, par exemple du Canada, pourra s'installer sur notre territoire, par exemple la France, mais l'Italie, etc., aussi, et être traité de la même manière que l'opérateur qui s'y trouve déjà, l'éducation nationale en l'occurrence, et donc recevoir, tant qu'elles existent, les mêmes subventions. Donc ça veut dire, à terme, que, comme ce n'est pas tenable budgétairement, que les subventions disparaissent. Donc vous voyez, c'est des accords intelligents. C'est pas un truc bestial où il y a marqué on supprime les subventions. C'est beaucoup plus subtil que ça. La libéralisation précède de fait la privatisation. Et donc, interdiction des mesures distorsives au commerce, première chose. Interdiction aussi, dans le cadre de l'OMC, des obstacles techniques au commerce, c'est-à-dire des mesures qui ne sont pas spécifiquement des mesures qui faussent la concurrence, des mesures qui touchent au secteur du commerce, mais qui ont un impact sur le commerce. Toutes, en fait. C'est-à-dire, toutes les mesures ont un impact sur le commerce. Une mesure sanitaire a un impact sur le commerce. Et c'est l'exemple qu'on donne tout le temps parce que c'est celui dont vous avez nécessairement entendu parler. C'est moi ? Non. Non, c'est pas moi. Ah non, c'est pas moi. Non, non. Ah non, je vous jure, c'est pas moi. Bon. En plus, c'est pas ma musique. Donc c'est pas moi. Non mais j'ai tellement peu l'habitude du portable, c'est mon éditeur qui m'a bassiné pour que j'en ai un, que je, quand ça sonne, je sais même pas comment on décroche. Bon, enfin bref, c'est pas grave. D'ailleurs, bon. J'en étais où moi avec tout ça? Obstacles techniques au commerce, oui. Les obstacles techniques au commerce, l'exemple qu'on donne tout le temps, parce que vous en avez nécessairement entendu parler, c'est l'exemple de la, du bœuf aux hormones. Vous avez forcément entendu parler de ça. Les États-Unis et le Canada produisent du bœuf aux hormones, ils veulent bien en exporter. Mais il se trouve que l'Union européenne, pour des motifs sanitaires, interdit la consommation de bœuf aux hormones à sa population en disant que c'est mauvais pour la santé. C'est une mesure sanitaire. Mais c'est une mesure sanitaire qui a un impact sur le commerce et qui empêche le produit de venir. Or, dans ces accords de libre-échange, il y a un principe très fort qu'on va retrouver avec le TAFTA et avec le CETA, qui est le principe de l'équivalence des produits. Un bœuf est un bœuf. Que ce soit un bœuf qui est couru dans l'herbe ou qui est, soit piqué aux hormones, c'est un bœuf. Et donc, au nom du principe de l'équivalence des produits, de l'interdiction des mesures distorsives au commerce, alors, eh bien, il a fallu que l'Union européenne soit condamnée par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, plus exactement l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale des commerces, du commerce, qu'elle soit condamnée. Précisément ce qui s'est passé, eh bien, les États-Unis, le Canada ont été autorisés à augmenter les taxes, une surtaxation, sur des produits en provenance de l'Union européenne à hauteur de 130 millions de dollars par an pour les États-Unis, d'une vingtaine de millions pour le Canada, jusqu'à ce que l'infraction cesse. Et ça, c'est intéressant de voir ça parce que ça veut dire plusieurs choses. Mais ça veut dire d'abord que les accords de commerce ne sont pas des choses abstraites qui flottent comme ça dans un éther de rien. Non, c'est véritablement des accords qui ont des conséquences. Et ce sont des accords qui ont des conséquences alors qu'ils ont un objectif, et qui est l'objectif qui est véritablement proclamé à chaque fois et mis en place à chaque fois, la libéralisation du commerce international. Faire en sorte que la concurrence soit le moteur et le seul moteur des échanges, la seule valeur autour des échanges commerciaux. Ce qui veut dire que toutes les règles ont vocation, les règles, y compris les décisions publiques des États, les décisions intérieures, ont vocation à se plier aux principes qui sont émis par les accords de libre-échange. En tous les cas, ce principe-là, cette réalité-là, a été posée en 1995 avec l'Organisation mondiale du commerce. Bon, alors on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a le TAFTA, puisqu'il y a déjà l'Organisation mondiale du commerce, et que l'Organisation mondiale du commerce englobe, bien entendu, et les États-Unis, et le Canada, et l'Union européenne, mais beaucoup d'autres aussi, 189 États en tout. Eh bien, tout simplement parce que l'Organisation mondiale du commerce a échoué. Elle n'est pas parvenue à remplir son mandat. Elle avait un mandat de libéralisation qui était démentiel. Il consistait à libéraliser l'ensemble des activités humaines, toutes en fait, sauf trois, qui sont la vente d'armes, qui sont traitées ailleurs, le nucléaire, qui est aussi posé ailleurs, dans d'autres traités, comme vous le savez, et puis armée, police, justice, les fonctions régaliennes de l'État ne sont pas concernées non plus par ces accords, mais pour le reste, toutes les activités humaines sont dans les traités, le traité de l'OMC. Et il se trouve que l'immensité de la tâche de cet organisme a fait qu'il patine, qu'il s'embourbe et qu'il ne parvient pas à remplir sa mission qui était de libéraliser l'ensemble du commerce international, ne serait-ce que parce qu'il doit aussi traiter par exemple des questions agricoles et que installer la concurrence en matière agricole généralisée pour le monde entier, etc., etc., ça c'est quelque chose qui n'est pas viable. Et en tous les cas, on s'est rendu compte à l'OMC aux alentours des années 2000 des blocages politiques qu'il y avait et qui ont fait que cette organisation continue d'exister, continue d'être un cadre de négociation, de référence, où s'établit un certain nombre de règles commerciales internationales, mais n'est plus le lieu où s'opère effectivement la libéralisation du commerce international. Là-dessus, faisant ce constat, les puissances mondiales, l'Union européenne, les États-Unis, etc., se sont dit, eh bien, on va passer par autre chose. On va passer par d'autres accords qui sont des accords régionaux. Et on va essayer de passer par des accords qui ne suscitent moins d'opposition parce que on va les faire entre partenaires commerciaux à peu près semblables. Et là, on est sur le TAFTA et le CETA, c'est-à-dire sur Union européenne-États-Unis et Union européenne-Canada. Le Canada d'abord, parce que c'est une petite économie. C'est un pays qui, je le constate en tous les cas, bénéficie d'une image plutôt flatteuse. Et donc, dans l'opinion, ça passe assez bien. États-Unis, Union européenne, peut-être un peu moins. Mais en tous les cas, voilà, dans l'ordre, Canada, États-Unis, Union européenne. Ces accords reprennent exactement les mêmes principes que l'OMC. Libéralisation, interdiction des obstacles au commerce, interdiction des obstacles techniques au commerce, des mesures distorsives au commerce. Ça, c'est la base de l'OMC. Mais en plus, ont été rajoutés deux mécanismes supplémentaires, fait de l'OMC plus dans le jargon des négociateurs, deux mécanismes supplémentaires qui sont des atteintes lourdes aux principes démocratiques. Le mécanisme de règlement des différents investisseurs État et le mécanisme de coopération réglementaire qui est moins connu mais qui est aussi dangereux. Alors, sans doute ou peut-être, vous avez entendu parler du mécanisme de règlement des différents investisseurs État parce que ça a quand même donné lieu à un certain nombre de remous et de mobilisations très sérieuses. Il y a eu toute l'année dernière une collecte de signatures, par exemple une pétition au cours de ce qu'on a appelé une initiative citoyenne européenne. 3,2 millions de signatures en moins d'un an, c'est absolument considérable. C'est la plus grosse pétition initiative citoyenne européenne qu'on ait jamais faite jusqu'ici, la plus grosse, de très loin. Et quand même, la Commission s'est aperçue qu'il y avait un problème, les États se sont aperçus qu'il y avait un problème politique autour de ce mécanisme de règlement des différents investisseurs États. Qui était, c'est vrai, et qui était, j'en parle pas au passé, qui est particulièrement odieux. Il s'agit, dans le mécanisme de règlement des différents investisseurs États, de faire en sorte que une entreprise, un investisseur, comme on dit, puisse poursuivre un État parce qu'il aurait pris une mesure contraire à ses attentes légitimes et qui constituerait une expropriation directe ou indirecte, une atteinte disproportionnée à ses investissements ou une mesure arbitraire. Et pour ces motifs-là, l'entreprise peut demander à un panel, comme on dit, d'arbitres, c'est-à-dire d'avocats internationaux, d'arbitres, de condamner l'État à une compensation financière égale à ce que l'entreprise pouvait légitimement attendre comme retour sur son investissement. Et ça, évidemment, ce mécanisme-là a fait bondir parce que, et sans doute vous en avez entendu parler là-dessus, on voit dans la définition que je viens de donner qu'il y a au moins, il y en a plusieurs, mais il y en a au moins deux problèmes très sérieux, qui sont d'une part qu'il s'agit d'arbitres, c'est-à-dire d'avocats privés, d'avocats internationaux privés, qui en tant que tels, comme tous les avocats, qu'est-ce qu'ils font comme tous les avocats? Ils vont rendre des services à leurs clients. Et donc un jour, ça peut être un État, c'est comme font tous les avocats, enfin c'est normal, un jour ça peut être un État, un jour ça peut être une entreprise, le lendemain ça peut être autre chose, vous voyez, c'est les casquettes comme ça, naviguent allègrement ce qu'on appelle en français un conflit d'intérêts, quoi. Et cette conflit d'intérêts institutionnalisé dans l'arbitrage est quelque chose quand même qui a suffisamment motivé beaucoup de personnes pour se manifester contre ça, mais il y avait aussi autre chose dans le mécanisme d'arbitrage qui est qui est problématique, c'est le caractère extraordinairement flou des raisons pour lesquelles on peut faire condamner un État. Le caractère extraordinairement flou parce que expropriation directe, bon, on peut voir ce que c'est. Indirecte, faut quand même avoir un minimum d'explication sur ce que c'est qu'une expression, une expropriation indirecte. Une mesure arbitraire, arbitraire par rapport à quoi? Une mesure disproportionnée par rapport au but recherché. Il faut une explication. Et les explications, à qui on les demande? Aux arbitres, qui s'appuient sur un accord qui les institue et dont l'objectif est la libéralisation maximale. Donc vous voyez à quel point on est dans un raisonnement complètement circulaire. Des personnes privées, entreprises, demandent à d'autres personnes privées, des avocats internationaux déguisés en arbitres, de bien vouloir faire condamner des États à payer des compensations qui peuvent être de temps en temps pharaoniques parce que des mesures ont été prises qui sont contraires à leurs bénéfices. C'est quand même assez étonnant, pour le dire le moins, voire complètement hallucinant. Et ça a entraîné une mobilisation très sérieuse sur la question. Là-dessus, la Commission a dit, bon, eh bien, on va faire un effort, figurez-vous, et on va faire un effort dans le poisson pilote du TAFTA, c'est-à-dire le CETA, accord Union Européenne-Canada, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'attire votre attention et j'insiste beaucoup sur cet accord-là, parce qu'il est absolument déterminant. La Commission a, avec l'accord des Canadiens, modifié au moins en 3 points le mécanisme du règlement des différents investisseurs États. Elle a réécrit une partie de ce qu'on appelle le chapitre 8 dans le CETA, qui est le chapitre sur l'investissement, dans lequel vous trouverez un article 8.9, qui dit par deux fois les États membres de l'Union européenne et le Canada conservent le droit de prendre des réglementations nationales et ou européennes, bref, conservent le droit de réglementer. Et c'est rajouté dans l'article 8.9-2, dans lequel il est dit que, en soi, le fait qu'elles prennent ces réglementations qui ont des conséquences sur les bénéfices des entreprises n'est pas en soi quelque chose qui est susceptible d'entraîner une compensation. Alors on se dit en lisant ça, alléluia, la Commission a vu la lumière et enfin on a un machin qui n'est pas aussi inadmissible que c'était le cas auparavant. D'autant que derrière, il y a des articles qui nous expliquent qu'en fait, d'arbitre, il va y avoir une cour. C'est mieux, hein, une cour, ça fait tout de suite plus juridictionnel. Une cour internationale d'arbitrage. Alors nous, on l'appelle ICS parce que c'est l'acronyme anglais. Ce n'est pas parce qu'on veut parler nécessairement anglais, hein, ça nous passionne, mais parce que sinon, cour internationale d'arbitrage, ça fait CIA, c'est déjà pris. Donc on va garder ICS, sinon ça va entraîner des confusions. Et d'autant que l'ICS est composé, toujours d'après le chapitre 8 sur l'investissement, d'arbitres qui sont choisis sur une liste. Il y a 15 arbitres qui sont nommés. Il y a le comité conjoint qui nomme le président. Le président, avec son vice-président ou sa vice-présidente, nomme une liste de 15 arbitres et qui sont choisis en fonction de leurs compétences et de leur connaissance en droit international privé. Au passage, personnellement, j'ai un petit peu, mais je suis mauvais angle, j'ai un petit peu ricané en lisant ça, mais à rien m'amuse, c'est que je me suis dit, tiens, ça voulait peut-être dire qu'avant, ils n'étaient pas forcément ni compétents, ni bon. Je ferme la parenthèse, c'était juste pour, juste comme ça, pour rire, mais quand même, c'est assez amusant. Et en plus de ça, il est dit que c'est... arbitres seront rémunérés par le comité conjoint tous les mois. Il est quand même précisé tout de suite derrière que rémunérés, c'est quand ils ne travaillent pas. Je veux dire quand ils ne sont pas sollicités sur une affaire d'arbitrage. Là, ils sont payés 2 000 euros par mois, ce qui est pas beaucoup. pour eux. Je veux dire, je parle pas de la moyenne des Français, bien entendu. Vous avez traduit. Donc ça, c'est quand ils sont payés pour ne pas travailler. Sinon, quand ils travaillent, c'est-à-dire quand ils sont désignés pour faire partie d'une affaire d'arbitrage, là, ils sont payés le tarif normal, c'est-à-dire... Enfin, normal, c'est peut-être pas le mot. Le tarif habituel, c'est-à-dire 1000 euros de l'heure. Vous voyez, c'est un petit peu autre chose. Et on nous dit également, ils ne connaissent pas le conflit d'intérêts, puisque si, par hasard, ils devaient être confrontés à cela, ils doivent se dessaisir eux-mêmes sur une base volontaire. Il n'y a pas de sanction. Et là, le gouvernement nous dit, et M. Fekel, entre autres le ministre, je crois qu'il est venu dans le coin, non ?
Oui.
Nous dit, eh bien voilà, vous voyez, vous avez une juridiction, une quasi-juridiction avec des magistrats, ou pratiquement des magistrats. Et non, parce qu'un magistrat, il y a un statut, hein, je suis désolé, encore une fois, les juristes sont pointilleux, c'est des emmerdeurs, les juristes, je sais, j'en suis, mais les magistrats, il y a un statut. Et le statut, il dit, quand on est magistrat, que si on connaît un conflit d'intérêts, parce que on a jugé d'une affaire, on connaît l'épouse, le mari, le cousin, ceci, cela, on a des sous dans l'affaire ou je ne sais pas quoi, on doit se dessaisir, et si on ne le fait pas, on est viré, c'est-à-dire qu'on est on n'est pas seulement dessaisi, on est destitué comme magistrat, et en plus il y a des poursuites pénales. C'est pas pareil que de dire sur une base volontaire, on va dire que machin ou Tartemolle, parce que qui a déclaré un conflit, il va se dessaisir gentiment s'il le veut, mais il n'y a pas de sanction s'il ne le fait pas. Enfin, franchement, c'est quand même pas, c'est pas quand même tout à fait la même chose. Mais là où le maquillage est le plus complet, on va dire, où l'hypocrisie est la plus complète de la part de la Commission et du gouvernement, c'est quand ils nous disent « les États conservent le droit à réguler ». Vous vous souvenez l'article 8.9-1 et 8.9-2. Sauf qu'il y a un article 8.31. Et oui, il faut lire tout. Hop, on arrive à l'article 8.31. Il y a deux phrases dans l'article 8.31. Il y a marqué les parties, c'est-à-dire les États, le Canada, l'Union européenne, l'ICS ne peut pas juger de la légalité d'un texte pris par un État. C'est pas ce qu'on lui demande. Jamais. Jamais, jamais, jamais. On lui demande pas ça. On lui demande à l'arbitre si le texte est contraire à ce que dit l'accord en termes de libéralisation. C'est pas du tout la même chose. La phrase suivante vaut son pesant de cacahuètes, puisqu'il est dit les arbitres peuvent considérer les lois et les décisions publiques comme incontestables. Peuvent considérer, c'est du conditionnel. En droit, ça veut dire on peut ou on peut ne pas. Et là, vous voyez, comme le couteau dans une huître, vous avez la porte ouverte au fait de dire, par des arbitres, cette loi là, qui est prise, je ne juge pas de sa légalité. Bien sûr, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. En revanche, je considère que cette loi, elle constitue une mesure disproportionnée, etc., etc. Elle va à l'encontre des attentes légitimes des entreprises. Et à partir de là, je fais condamner l'État à une compensation quelquefois considérable. Voilà où nous en sommes, c'est-à-dire que nous avons quand même une commission et un gouvernement qui aujourd'hui nous disent l'accord de libre-échange Union européenne-Canada est un bon accord parce qu'on a tenu compte de ce que disent les gens à propos du mécanisme de règlement des différents investisseurs États. Eh bien, en réalité, absolument pas. C'est un maquillage. Alors, on se dit, bon, bah, tant mieux, ils ont eu peur, ça veut dire qu'ils ont eu peur, quoi. Mais n'empêche que c'est seulement un maquillage et que le problème, il reste entier. D'autant qu'il y a un deuxième mécanisme. Mais si vous voulez, après, dans le débat, parce que je ne vais pas alourdir le truc, je vous donnerai quelques exemples de mécanismes de règlement des différents investisseurs États pour vous dire ce que ça veut dire concrètement. Mais il y a un autre mécanisme qui est aussi tout à fait hypocrite et qui est dans le chapitre 21, qui est celui de la coopération réglementaire. Alors, c'est l'institutionnalisation d'échanges d'informations entre l'Union européenne et le Canada. Par exemple, ça c'est le chapitre 21 du CETA, mais c'est prévu aussi dans le TAFTA. Échanges d'informations qui se font par un forum de coopération réglementaire qui sera informé à l'avance de toutes les réglementations qui seront envisagées d'un côté et de l'autre et qui pourra émettre son avis après avoir pris celui des parties concernées qui peuvent être les entreprises, mais aussi les ONG, mais aussi les syndicats, etc., etc. Et donc un échange de bonnes pratiques sur la base optionnelle. Voilà comment les choses sont en tous les cas décrites dans le premier article et les suivants, les deux, trois suivants de ce chapitre sur la coopération réglementaire. Sauf que, quand on regarde dans le détail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'avenir, si un opérateur, si par exemple l'Union européenne veut prendre une réglementation qui limite l'utilisation, qui interdit l'utilisation des perturbateurs endocriniens, par exemple, comme l'Union européenne avait dit qu'elle le ferait. Elle a dit ça un jour, voilà, on attend toujours, mais enfin, en tous les cas, ça fait partie des promesses. Si jamais un jour elle se décide de le faire, il va falloir qu'elle en informe le forum de coopération réglementaire, qui lui-même va en informer, un forum de coopération réglementaire composé de représentants de l'Union européenne et du Canada, qui lui-même va en informer les parties concernées de l'autre côté de l'Atlantique. C'est-à-dire que si l'Union européenne décide de réglementer les perturbateurs endocriniens, le forum de coopération réglementaire demandera aux fabricants de perturbateurs endocriniens ce qu'ils en pensent. Et on ajoute à cela un autre élément, que les réglementations qui pourront être retenues par les parties sont des réglementations scientifiquement fondées, acceptées par les deux parties. Et ça, ça fait très mal. Parce que, et en plus vous avez un chapitre sur la biotechnologie à propos des OGM, je reviendrai dessus tout à l'heure. Ça fait très mal. Imaginons maintenant que l'Union européenne se décide à interdire les OGM, par exemple, ou se décide à interdire le gaz de schiste. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Union européenne autorise les OGM, autorise les gaz de schiste. Simplement, les États, dans le cadre de ce qu'on appelle le principe de précaution, ont le droit de ne pas accepter sur leur territoire, les États membres, les OGM. Ce qui fait que, par exemple, la France, par exemple, l'a refusé, mais l'Espagne, entre autres, hein, l'a accepté. Les gaz de schiste, il y en a en Pologne, c'est pas accepté en France, enfin, c'est des choses que vous savez bien. Eh bien, si l'Union européenne dit un jour on veut interdire les OGM, il faudra qu'elle passe par ce forum de coopération réglementaire et qu'elle s'appuie pour faire accepter cette nouvelle réglementation sur des données scientifiques acceptées par les deux parties. Ce qui est totalement inatteignable. Donc, ce qui est en train de se faire avec ce forum de coopération réglementaire, c'est une espèce de technocratie au-dessus de la technocratie. Nous avons déjà, nous connaissons déjà aujourd'hui, ici et maintenant, sans aller chercher l'autre bout du monde, ici et maintenant, une certaine technocratie, c'est-à-dire un mode de fonctionnement qui est déjà très moyennement transparent et très moyennement démocratique, pour le dire avec une litote, parce qu'il y a des types de fonctionnement où en effet on va dire que les citoyens et citoyennes ne sont pas spontanément invités, encore une fois avec beaucoup de litote, mais là c'est à un niveau supérieur, c'est-à-dire c'est à un niveau encore au-dessus, encore plus loin, encore plus difficile à atteindre par les mobilisations. Mais là où l'hypocrisie est quand même complète, c'est que dans le CETA, il est marqué que la coopération réglementaire se fait sur une base volontaire. Là, vraiment, c'est hallucinant de lire des choses pareilles parce que qui a la possibilité de dire dans le traité que elle va être d'accord ou pas pour conduire la coopération réglementaire? Eh bien, dans le traité, c'est les parties. Page 1 du traité, il n'y a pas besoin d'aller très loin, c'est-à-dire Canada, Union européenne. C'est l'Union européenne qui va dire si oui ou non elle participe au forum de coopération réglementaire. Et évidemment, elle va dire qu'elle participe au forum de coopération réglementaire. Bien entendu, d'autant plus que les trois quarts, au nom de l'harmonisation du marché intérieur, les trois quarts des décisions normatives, réglementaires, sont prises à l'initiative de l'Union européenne. Donc, c'est une certitude. Le forum de coopération réglementaire ne fonctionnera pas sur une base volontaire, mais nécessairement sur une base systématique. C'est-à-dire que systématiquement, l'Union européenne engagera, nous engagera dans ce mécanisme de coopération réglementaire. Et là, ce qu'on peut dire sur ce mécanisme de coopération réglementaire, c'est qu'en fait, il permet un accord chèque en blanc. Un accord chèque en blanc. On sait quand ça commence, on ne sait pas jusqu'où ça va. J'ai parlé jusqu'ici beaucoup du Canada, parce que vous avez compris que c'est maintenant. Mais sur les États-Unis, coopération réglementaire, ça veut dire à un moment donné qu'il va falloir aller vers ce qu'on appelle dans les accords la reconnaissance mutuelle des normes. Et la reconnaissance mutuelle des normes, c'est-à-dire le fait qu'un produit qui est fait là doit être accepté de l'autre côté et réciproquement, qu'un service qui est rendu d'une certaine façon d'un côté doit être accepté de l'autre côté de la même manière, fait que nécessairement le principe de précaution saute. Quand il s'agit du Canada, on peut s'inquiéter sur un certain nombre de points, comme par exemple sur les réglementations minières. Le Canada est un pays minier, est un pays où il y a des coopérations, des corporations minières très puissantes, etc. Sur les États-Unis, on peut s'inquiéter de beaucoup de choses aussi, mais pas seulement dans ce domaine-là, mais dans beaucoup, beaucoup d'autres. L'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que il faut aussi prendre le point de vue, et ça c'est important, des populations américaines. L'Union européenne est beaucoup plus laxiste que les États-Unis sur les questions de réglementation des marchés financiers. Beaucoup plus laxiste. Et donc ça veut dire que le peu de re-réglementation qui a été mise en place sous l'impulsion du président sortant, du président Obama, devrait sauter avec cet accord Union européenne-États-Unis. Et là, on voit que ce type d'accord n'est pas un accord du méchant américain contre l'Union européenne, mais véritablement un accord au service des entreprises transnationales. Parce que là, je dois aussi évoquer la dernière hypocrisie en date de la Commission et du gouvernement qui consiste à nous dire que ces accords vont être bons pour les PME. Vous voyez? Que ça va être bien pour elle, etc. Ils le disent. Ils le disent. Oui, sans rire. Oui, parce que au départ, c'était bon pour la croissance et la création de richesses. Bon. Eux-mêmes, au bout d'un moment, ont été obligés de sortir un chiffre. Alors, ils ont sorti comme ça, au doigt mouillé, un chiffre après une étude du CEPR en disant un centre économique, un think tank libéral, en disant que ça va créer 120 milliards de richesses par an. Et puis finalement, on s'est rendu compte, mais en 2027, et on s'est rendu compte que 120 milliards, ça veut dire un petit fragment de pourcentage du PIB européen, et en 2027, hein, c'est-à-dire on ne sait pas ce qui va se passer dans 6 mois, mais en 2027, la Commission pouvait le savoir. Bon, ça ne marche plus comme argument, ça ne tient pas la route. Alors, il y a eu l'argument, le chômage, ça va créer 500 000 emplois. Bon, oui. 500 000, même si c'était vrai, c'est pas vrai, parce que c'est vraiment des chiffres au doigt mouillé. Il y a 28 millions de chômeurs en Europe. 500 000, c'est toujours bon à prendre, hein, je sais pas, mais on est loin du compte quand même. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. 500 000 dans toute l'Europe, hein, on est bien d'accord. Hein, alors là, maintenant, l'Union européenne et le gouvernement nous disent c'est bon pour les petites et moyennes entreprises. Sauf qu'il y a une étude de l'Institut Veblen, je vous conseille d'aller le voir sur Internet si vous voulez, hein, parce qu'il y a, ça fait des argumentaires à développer, qui montre qu'en réalité, seuls 2% des PME exportent et que de toute façon, vers les États-Unis, et que de toute façon, jamais elles ne pourront pas participer au forum de coopération réglementaire, jamais elles ne pourront saisir l'arbitre. Parce que ne serait-ce que pour saisir les arbitres, il faut mettre d'emblée, vu les tarifs, je vous ai dit tout à l'heure, $1 million sur la table. Enfin bon. Donc vous voyez, tous les arguments qui sont donnés s'effondrent les uns après les autres, mais néanmoins, on est dans cette situation-là. Alors maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, on peut se dire, bien, la situation est quand même pas forcément très joyeuse. Je vois un petit peu quand même à vos têtes que j'ai l'impression d'un... C'est pas pour ça que je suis venu, hein. À part le fait de venir, c'est toujours un plaisir, mais c'est pour vous passer le message que, comme ça a été dit là au tout début, c'est gagnable. Ça va pas être facile, mais c'est gagnable. C'est gagnable pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on n'est pas tout seul. Il y a, vous le savez, des collectifs qui sont créés partout en France, il y a un collectif national, mais il y a aussi dans les autres pays de l'Union européenne, avec une mobilisation très très sérieuse dans des pays comme l'Allemagne, mais aussi comme des pays comme la Belgique. Ça, la Belgique est un pays qui se mobilise toujours énormément sur ces questions-là. La Grande-Bretagne, un peu l'Espagne, l'Italie, oui, la Grande-Bretagne aussi, oui, oui. Dans les déclarations de Ville or Tafta, il y en a. Et dans le nombre de personnes qui ont signé l'ICE, vous savez, il y a une espèce de quota comme ça par rapport à la totale de la population. La Grande-Bretagne a fait un résultat parmi les premiers. Enfin, c'est vraiment, ils ont ramené beaucoup de signatures. Hein. Oui, oui. Non, non, ils ont aussi une mobilisation, y compris en Grande-Bretagne, vous voyez. Mais même, y compris là, franchement, on a été un petit peu surpris de ça, dans les pays de l'Est. Également, il y a des mobilisations, comme par exemple, mais même en Pologne, qui est pourtant assez atlantiste, hein, comme pays traditionnellement, enfin traditionnellement, une tradition récente, on va dire, hein. Il y a peu de temps, mais enfin assez atlantiste en tous les cas. Donc on n'est pas tout seul. Il y a des mobilisations qui se font, qui ont eu lieu, qui ont déjà obtenu un certain nombre de résultats. On est dans des mobilisations de long terme, c'est-à-dire que je vous ai parlé de cette pétition qui continue d'ailleurs. C'est pas ce genre de pétition, c'est pas fait juste pour le plaisir de signer une pétition, parce que des pétitions on en a tous signé, c'est bien, mais c'est pas forcément ce qui change les choses tout le temps. C'est vraiment essayer de changer le rapport de force à la base. C'est-à-dire faire en sorte que la prise de conscience monte dans la population sur un phénomène qui est quand même assez peu médiatisé, voire pas du tout médiatisé, qui l'est de plus en plus, mais pas suffisamment. Et ça s'accompagne aussi d'une campagne de long terme sur les déclarations des villes hors TAFTA. J'ai appris qu'Orléans ne s'était pas encore déclaré hors TAFTA, je vois comment ça se fait. On m'a expliqué un petit peu, hein, c'est pour ça que je dis ça. Mais la déclaration des villes, des départements, des régions, etc., hors TAFTA, c'est non seulement pour informer les élus locaux, ce qui est toujours utile parce qu'ils ne sont pas plus informés que les autres, mais aussi pour changer le rapport de force à la base. C'est-à-dire pour faire en sorte qu'au moment, au moment où ces textes arriveront à la ratification, il ne soit pas possible politiquement pour les élus de ratifier ce genre de choses parce qu'il y aura eu des mobilisations d'élus locaux, y compris qui appartiennent aux partis majoritaires quelquefois, qui se seront manifestés contre ces accords. Et ça, c'est quelque chose qui est gagnable d'arriver à faire en sorte que nos responsables politiques comprennent que cela leur coûterait trop cher. Sauf que là maintenant, avec l'arrivée du CETA, on est devant une nouvelle phase, qui est une phase avec une fenêtre de tir courte, puisque la Commission l'inscrira à son agenda en juin, le Conseil des ministres sera saisi du CETA en septembre, c'est officiel, hein, le chiffre, les dates que je vous donne, et renverra, s'il l'accepte, pour la ratification au Parlement européen en décembre ou janvier. Et donc, là, vous voyez, il y a la nécessité d'agir maintenant. Il y a une campagne spécifique au CETA qui, on se voit là, samedi et dimanche qui arrive, le 19 et le 20, on se voit, les comités locaux se voient, donc on va prendre un certain nombre de décisions, de campagnes spécifiques sur le CETA. Et là, maintenant, il y a cette mobilisation particulière à mener pour empêcher que le poisson pilote du TAFTA n'arrive à la ratification. Alors, nous avons affaire à forte partie, c'est-à-dire qu'on ne va pas y arriver facilement, mais on a déjà réussi à bloquer des accords de commerce, des accords de libre-échange. On y est déjà arrivé, pas tout seul, en général. Il y a aussi des contradictions dans le camp d'en face, je pourrais vous en parler si vous voulez, pendant le débat. C'est déjà arrivé aussi, par exemple, avec l'accord sur la contrefaçon, il y a 5 ans, après une mobilisation auprès des élus parlementaires européens. Et donc, toutes ces choses-là sont jouables, mais évidemment, il faut renforcer, amplifier et faire tout ce que nous pouvons pour augmenter encore et toujours la mobilisation. Je dirais d'une certaine façon qu'on n'a pas le choix parce que, comment dire, les accords de libre-échange ne sont pas tout le résumé des problèmes. Je veux dire qu'il y a des problèmes en dehors des accords de libre-échange, mais cela rajoute une couche de problèmes supplémentaires que nous ne pouvons pas et que nous ne devons pas accepter. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis si vous le voulez, j'essaierai, dans la mesure de mes moyens, de répondre à vos questions. Merci.